Le point.
Bonjour à tous, bienvenue dans le Tacle de l'Euro, le podcast du point sur l'Euro. On va tout d'abord s'excuser pour la qualité du son la semaine passée. On a eu quelques soucis techniques, alors moi j'y vois la main de Julien Rebucci et de Olivier Perroux qui m'ont censuré, puisque c'est moi qu'on entendait le moins. Donc moi j'y vois une main étrangère, l'anti-France. Invisible. L'anti-France est là. Aujourd'hui avec nous, Adrien Mathieu, spécialiste en coup du Scipion. Bonjour Adrien.
Bonjour.
Je t'ai pas trop inspiré aujourd'hui.
Non, mais pas de problème, ça vient de loin. Se tente.
À l'écrit, c'était magnifique. Mais bon.
Bonjour à tous.
Julien Rebucci, adepte de la pause fraîcheur. Bonjour Julien.
Bonjour.
Et Thomas Bourgeois-Muller, expert de la VAR. Bonjour.
Bonjour Thomas. Tout le monde.
Comment ça va?
Ben ça va, je suis un peu fatigué avec les régionales, mais ça va.
Et toi? Oui, parce qu'on est sur tous les fronts, hein. Régional, Euro, Tour de France, Wimbledon qui commence aujourd'hui avec un 21e titre de Roger Federer, donc on est partout. Alors je vais vous rappeler le concept, parce qu'on est un peu là pour parler de foot. Le concept, chaque participant a une minute pour tacler un joueur, une équipe, un coach, un arbitre, un fait de jeu, et les autres doivent dire si ce tacle est régulier ou s'il mérite une sanction administrative, à savoir un carton rouge ou un carton jaune. Avant de parler de l'équipe de France qui joue ce soir contre la Suisse, on va faire un petit tour d'Europe, c'est un peu Union Libre. Je suis Christine Bravo et je vais donner la parole à Mario, Julien Rebucci, pour nous parler de l'Italie.
Ah oui, alors je vais parler de l'Italie et en particulier de son milieu de terrain très médiatique, Marco Verratti, le petit hibou. Mais en fait, le petit hibou, il ressemble plus, je trouve, à K, le serpent dans le livre de la jungle. Le serpent dans le livre de la jungle, celui qui vous dit « faites-moi confiance ». En fait, j'ai l'impression qu'il a hypnotisé Roberto Mancini, qu'il l'a choisi comme titulaire lors du 8e de finale face à l'Autriche, à la place du pourtant très bon Locatelli. J'ai pas compris ce choix et je pense que personne n'a compris ce choix sur le terrain, puisqu'on a vu que ça n'allait pas du tout. Alors évidemment, ce n'est pas le seul joueur de l'Italie à ne pas avoir bien joué ce jour-là. Mais par contre, je pense que c'est à cause de lui que beaucoup ont mal joué. Marco Verratti, c'est dans la droite lignée de ce qu'il fait à Paris. C'est un milieu qui n'est pas assez créatif à mes yeux. C'est un joueur qui ralentit le jeu. Et c'est un joueur qui trouve pas sa place sur le terrain. Et là, on l'a vu avec Jorginho, cette idée de double playmaker, ça ne marche pas du tout. Il manquait de la verticalité qu'on a pu voir dans les matchs de poule de l'Italie, notamment les deux premiers. L'entrée de Pessina et Locatelli a complètement changé la face de l'équipe. On peut le voir sur le premier but magnifique de Chiesa. Il y a le geste de Chiesa qui est très très beau, le centre qui est très intéressant, mais la passe de Locatelli pour Spinazzola, c'est des passes comme ça qu'on veut voir, et ce ne sont pas des passes que Verratti est capable de faire, à mon avis. Tout ça pour résumer, mon tacle, ce sera un tacle appuyé, les deux jambes décollées sur Marco Verratti, qui n'a pas le niveau international à mes yeux.
Vous allez le blesser déjà, qui se blesse assez facilement.
Il n'a peut-être pas besoin de moi. Ouais.
Bravo Julien. Adrien, est-ce que ce tacle au petit hibou, vous dites chouette?
Alors je suis extrêmement partagé parce que Julien dit quelque chose sur le but, la passe de Locatelli. Est-ce que Verratti était dans la condition capable de la faire? Et je trouve que globalement c'est extrêmement sévère de tomber sur Verratti après ce match-là. J'en voudrais beaucoup plus aux trois offensifs, Insigne, Immobile,
Berardi,
qui m'ont rappelé les pires heures de Briand, Houdin, de Préville à Bordeaux, une espèce de performance magistrale qui se résume à un zéro pointé. Et Verratti, mine de rien, il fait son match, il joue une heure et la première mi-temps elle est plutôt bien tenue. C'est sûr qu'au retour des vestiaires c'est plus délicat. Tu as raison dans le sens où peut-être que Jorginho, Verratti, ça se marche dans les zones d'influence. Mais franchement, on trouvait un coupable sur cette équipe d'Italie pour expliquer une performance décevante, mais t'es quand même qualifié face à l'Autriche. Je trouve que c'est très dur de tomber sur Verratti aujourd'hui.
T'as dit un truc terrible. Il a fait son match, il a joué une heure. Et c'est bien le problème, il n'est pas capable de jouer 90 minutes.
C'est l'avantage aussi d'avoir un banc. L'Italie possède un banc de qualité, tu l'as dit, Chiesa, Locatelli, c'est des armes à disposition de Mancini. Mais Verratti reste un joueur à part, on sait que physiquement c'est délicat, on sait qu'il y a toujours ces petits problèmes. Voilà, son match contre l'Autriche, moi j'ai plutôt trouvé que c'était une heure de jeu intéressante.
Mais c'est un joueur à part dans le mauvais sens, quoi. Parce que j'ai l'impression qu'on pardonne beaucoup de choses à Verratti en disant il est talentueux, il est génial, il a des inspirations, sauf que sur le niveau de régularité, c'est affligeant. Et puis en Italie, il n'a jamais rien fait. Hein.
Oui, alors c'est très paradoxal parce que
en sélection,
il a joué de malchance. On va dire que l'Euro 2016, il est blessé. La Coupe du Monde 2014, il est pas là où il est, je sais plus où il joue. Non, il joue quelques matchs.
Il est blessé,
ouais, parce que c'est Marquisio qui est là encore. Et 2018, il était une se qualifie
oui,
pas.
Oui, il rate le barrage. Enfin, il fait un premier match de barrage, il me semble.
Ah non, en Suède, il prend un carton jaune, il est suspendu pour le retour. C'est aussi la spécialité de Verratti, c'est quelque chose qui l'accompagne malgré les années d'expérience et tout. Et on a le sentiment qu'il y a un rendez-vous manqué encore avec l'Italie. Mais de tout ce que disent les spécialistes, l'Italie n'a pas quand même beaucoup de joueurs de la trempe, voilà, on va dire des mecs supérieurs. Verratti fait partie de cela, donc on doit quand même compter sur lui.
Il y a un sondage ce matin à la Gazzetta dello Sport, qui est l'équivalent italien de l'équipe, hein, et qui doit démarrer le match contre la Belgique, c'est vendredi. Hein. Bah, sur le duel Barella-Pessina, parce qu'on a vu que Barella a fait aussi un très mauvais match, et Pessina, par contre, deux buts, alors qu'il a un statut... Pessina ne devait même pas être dans la liste, hein, c'est un repêché de dernière minute. Barella reste titulaire aux yeux des supporters italiens. Par contre, entre Locatelli et Verratti, bah, c'est Locatelli à 67%, donc deux Italiens sur trois sont pour le retour de Locatelli comme titulaire et pas du petit hibou qui a seulement conquis le public français, j'ai l'impression.
Oui, c'est ce que j'allais dire, il n'y a que la tribune Auteuil qui adore Verratti, voilà. Qui voit un joueur exceptionnel. Hein,
parce je crois bien.
C'est terrible. Donc, Adrien, tu mets un carton jaune.
Carton jaune.
Et moi, je mets tacle régulier. Donc, c'est la VAR. C'est Thomas Strasbourgeois-Muller qui va nous dire.
Régulier, je mettrais un tacle à Adrien plutôt.
Un carton jaune à Adrien. Qu'on n'a pas pris beaucoup. Jaune, hein.
C'est mon premier, je pense,
oui,
de l'Euro.
Eh ben, il était temps. Hein.
Voilà.
Non, c'est un débat qui revient toute l'année au PSG. Il revient à l'Euro, bizarrement. Enfin, voilà, c'est... Non, ce joueur est une fausse valeur.
Et pourtant, j'ai pas envie de lui en vouloir à lui-même, Verratti, parce qu'il a eu des propos même très intéressants quand il a expliqué qu'il n'avait aucun problème à être remplaçant, que de toute façon, on ne pouvait pas se plaindre, parce que vu la situation, ils étaient juste là pour amener du plaisir au public. Bah, continue de nous amener du plaisir, Marco, va en tribune et laisse les autres jouer.
Allez, un autre tacle, voilà. Bon, il est rhabillé pour l'hiver, en tout cas, pour l'été.
Rhabillé pour l'hiver.
Alors, je vais, moi, tacler nos amis belges. Alors, je sais pas si vous connaissez cette équipe de Belgique. C'est l'équipe numéro 1 du classement FIFA. Celle qui pratique, paraît-il, le plus beau jeu du monde. Eh bien, hier, cette équipe romantique et offensive s'est faite toute petite et a mis un peu le bus face au Portugal, attendant les attaques de son adversaire pour les contrer grâce à un jeu de transition. Bref, les stats parlent d'elles-mêmes. Seulement 6 tirs, dont un cadré, contre 23 tirs pour les Portugais et surtout une possession très faiblarde, 42% donc de possession pour les Belges. Alors on se souvient du fameux seum après la demi-finale perdue contre la France en 2018. La meilleure équipe s'était inclinée, le jeu sale avait gagné. Sauf que la Belgique est coutumière de ce genre de revirement tactique contre le Brésil. Je vous rappelle, en quart de finale, après leurs deux buts, ils avaient absolument plus joué. Mais ça restait la meilleure équipe, la plus grande, vous savez, celle qui déploie le meilleur jeu, etc., etc. Donc, mon tacle sera pour les idéologues du beau jeu qui, quand vient la difficulté, deviennent des pragmatiques gênés. Et ce sera une pierre dans le jardin, ou plutôt le terrain de Julien Rebucci, pour dire que son ennemi, c'est une star. Parce que quand on veut gagner, on fait une DD. Julien.
Non, ce sera un tacle rouge appuyé sur cette attaque contre les Diables Rouges, justement. La Belgique, c'est aujourd'hui, pour moi, je pense, la plus belle équipe au niveau européen, qui possède en son effectif titulaire un Kevin De Bruyne qui est vraiment au sommet de son art. Ce joueur est extraordinaire, vraiment. Pour moi, c'est aujourd'hui le meilleur joueur du monde. Il n'y a rien à dire. Et encore une fois, hier, il a été la victime de tacles vraiment horribles. Je ne sais pas si je sais plus quel joueur lui fait un...
Paligna.
Paligna lui fait un tacle et deux pieds décollés. Non, mais ça, c'est carton rouge directement. Quoi. Il n'y a même pas...
Merci Lavar.
Il n'y a même pas à réfléchir. Et évidemment, quand il sort, bah, l'équipe change totalement de vision du jeu, mais hein, je mets au défi n'importe quelle équipe, si vous perdez votre leader tactique,
oui,
technique sur le terrain, bah, vous ne jouez pas de la même façon.
Ils le perdent à la combien ? À la 60e ?
50e ? Non, je crois qu'il sort tout début de seconde période, parce que je pense qu'il refroidit musculairement et il voit qu'il ne peut pas repartir. Alors c'est peut-être une des limites de la Belgique, c'est est-ce qu'il est suffisamment costaud pour résister aux charges dues à sa place sur le terrain, je ne sais pas. Mais bon, la Belgique a été pragmatique hier. Ils ont perdu leur meilleur joueur. On n'est qu'au 8e de finale, donc il reste encore 3 matchs pour aller soulever le trophée. On sait que dans une compétition internationale, il y a toujours un match un peu dégueulasse. C'est pas les Français, c'est pas les Italiens qui vont dire l'inverse pour arriver à la dernière marche. Bon, bah voilà, le match dégueulasse de la Belgique, il était hier. Et en plus, les Portugais, il faut quand même se les coltiner parce que, en équipe, au jeu dégueulasse, ils sont aussi pas mal non plus, quoi.
Bon, bah, Julien a, pendant qu'il parlait, retourné sa veste, son manteau qu'il a. C'est formidable. Merci, Julien. Adrien.
Non, c'est quelque chose de très intéressant, le revirement de la situation belge. Mais je pense que c'est quelque chose qui réfléchit depuis longtemps. Après match, Thorgan Hazard, le buteur, a dit que voilà. Pour gagner un tournoi, on est capable de souffrir. Roberto Martínez, dans SoFoot, a expliqué que leur dernière Coupe du Monde, mine de rien, la Belgique a remporté 6 matchs sur 7. Et c'est le seul qui doit faire réfléchir à pourquoi. Et il faut avoir cette approche. Après, je pense que hier, c'était quand même conditionné à l'absence de De Bruyne pour ressortir bien les ballons. On l'a vu, Lukaku, il y a quelques contrôles de jeu, mais il manquait un peu de justesse technique de la part de l'attaquant belge pour espérer mieux. Et non, moi, j'ai envie de dire à nos amis belges, bienvenue dans notre réalité. Ça fait plaisir aussi de gagner comme ça, même si je trouve que le mythe de 2018, le jeu salle de l'équipe de France, on est quand même beaucoup plus tiré que ce jour-là.
Bien sûr. Et en plus, on est meilleur attaque en 2018. Hein. Rappelons-le. Thomas.
La VAR n'a rien à dire. Ton tacle était parfaitement licite.
Parfait. Oh là, et c'est la première fois que je ne suis pas expulsé ou que j'ai un carton jaune.
Je t'ai mis un carton rouge.
Ah oui, tu m'as mis un carton,
mis un carton rouge.
Je ne t'écoute plus de toute façon. Et donc, on va avec toi, Adrien, parler de ce match contre la Suisse. Bon, nous, on se fait pas d'inquiétude avec Julien, parce qu'on a dit que la France allait être championne d'Europe, les doigts dans le nez. Donc, on t'écoute, mais bon, on n'a pas trop d'inquiétude.
Et oui, dans le tacle de l'Euro, on va parler un peu de tactique. Selon toute vraisemblance, les Bleus vont changer de système ce soir face à la Suisse. Une défense à 3, mais la colonne vertébrale de l'équipe reste. Pogba, Kanté au milieu, Benzema, Mbappé, Griezmann devant. Compte tenu des blessés, Koundé, Digne, Thuram et des incertains comme Lemar, ce changement est nécessaire. Heureusement, Didier Deschamps n'improvise pas comme Laurent Blanc face à Manchester City. Il a eu le temps de préparer ce schéma au cours des derniers mois. Il faut dire qu'il y a tellement de matchs internationaux que ça aurait été dommage de s'en priver. Ce qui m'inquiète le plus, au final, c'est l'animation dans les couloirs, ces fameux pistons qui brillent d'ailleurs dans cet Euro. Malheu avec le Danemark, Dumfries aux Pays-Bas ou encore l'Allemand Gossens. Malgré notre vivier incroyable, je me suis rendu compte que globalement, nous avions très peu de joueurs de ce profil en France. C'est un axe de progression pour les prochaines années et c'est aussi le but de mon tacle. Être champion du monde ne donne pas le droit de se reposer sur ses lauriers. On a des Klose, des Mukiele, des Théo Hernandez, mais aucun de ceux-là n'a encore eu sa chance en bleu. Mais ce qui compte, et on l'a bien compris, c'est nous retrouver avec nos voisins suisses, une équipe qui elle aussi évolue en 3-5-2, l'occasion de comparer notre capacité d'adaptation. Didier Deschamps est dans l'obligation de bricoler. Le chantier sera-t-il bien tenu? Inspection des travaux à 21h.
Didier Deschamps, ce nouveau Claudio Ranieri, qu'on appelait le bricoleur, Julien.
Ouais, non, bah, je suis assez d'accord avec Adrien. Moi, il y a l'idée du 3-5-2 qui a germé dans la tête de Didier Deschamps, je ne sais pas quand. Surtout, pourquoi? Parce que je ne vois pas en équipe de France aujourd'hui qui peut incarner le rôle de piston sur les côtés. Déjà, on a du mal à avoir des ailiers offensifs. Alors, si en plus il faut rajouter des pistons comme ça, latéraux, bon. Notre seule chance, c'est que la Suisse a un piston qu'on connaît, Ricardo Rodriguez, mais qui est le fantôme de lui-même depuis maintenant un an ou deux. Bon, il n'est plus très très bon. Je crois qu'il y a toujours un Milan AC, je sais même
PSV Eindhoven.
PSV Eindhoven. Ouais, mais déjà, au Milan AC, c'était plus ça. Là, dans cette compétition, il n'y arrive pas. Ouais. J'ai un peu peur pour ce soir au niveau tactique, quoi, parce que si les deux équipes jouent en 3-5-2 mais sans piston, on risque de se faire chier un bon moment. Voilà, à voir.
On a l'habitude, hein.
On a l'habitude.
De toute façon, l'important, c'est la gagne. Donc, ouais. Mais est-ce qu'on peut imaginer que Deschamps, il teste ça aussi pour le quart de finale de vendredi?
C'est une possibilité. Ce qui est annoncé, c'est qu'apparemment, ce serait Hernandez et Pavard qui évolueraient un cran plus haut. Bon, bah, de la base, ce sont quand même deux centraux de formation. Donc, c'est une grosse curiosité de voir comment ils s'adaptent. Parce que le rôle de piston est extrêmement exigeant, notamment dans l'apport offensif. On l'a vu que ce sont deux joueurs qui ont quand même un peu de mal. Donc, voilà, si par exemple, contre la Suisse, il y a une vraie maîtrise et que les pistons répondent aux attentes, je pense que pour le quart de finale, on sera reconduit.
Donc, on part avec deux pistons qui sont des défenseurs centraux, plus trois défenseurs centraux dans l'axe.
On n'est jamais trop prudent.
On aura donc cinq défenseurs centraux.
C'est,
c'est le
rêve de beaucoup d'entraîneurs de Ligue 1, mettre cinq défenseurs centraux dans une compo.
C'est un bel hommage à la French Touch. Quoi. French Touch footballistique.
Si Thierry Loret nous écoute.
Aïe.
Mais Didier Deschamps voilà, est un bricoleur. Il teste, et peut-être qu'on aura notre équipe type en finale.
Oui, ça peut clairement le faire, mais je pense notamment à un Langlais qui a été très, on va dire, dans le dur toute la saison au Barça. C'est un gros test pour lui, c'est un match à élimination directe. Il faut qu'il rentre dans le vif du sujet, donc ça va être pas mal. Après, j'ai lu quand même que 95% des joueurs qui vont jouer ce soir ont déjà évolué dans une défense à 3 cette saison. Donc il y a quand même des automatismes qui seraient déjà là.
Et il est temps, alors ça va être, j'espère que ce nouveau dispositif tactique permettra à Mbappé de marquer, parce qu'il a besoin d'un but pour se libérer lui aussi, comme Karim Benzema. Vous pensez que ça va être un festival offensif?
Non.
Tous les deux? Non.
J'ai un peu de mal à imaginer contre la Suisse.
Bon, non, d'autant qu'on va perdre du coup, parce que 3-5-2...
On va perdre
donc, un milieu de terrain.
Un milieu de terrain, donc c'est Rabiot qui va te sacrifier?
C'est ça, normalement.
Bon, d'accord.
D'accord. Bon, alors, on verra ça demain. Ne critiquons pas tout de suite.
Oui, bien sûr.
Là-bas.
On n'a rien à dire. C'était brillant, même.
C'était brillant. C'était une analyse technique brillante. Oui. On est un peu dépassé.
Comme on en entend peu.
On est un peu dépassé parce que nous, c'est plutôt café du commerce. C'est là, 3-5-2. Moi, j'ai calculé, j'ai dit 3-5-2. Il manque un joueur parce qu'ils sont bons sur le terrain. Bon, voilà. Et puis après, je me suis dit, on compte pas le gardien. Mais voilà. Merci.
C'est pas grave.
Nous allons recycler un jingle que nous avons enregistré la semaine dernière. Donc, je laisse.
Deux minutes de bonheur en plus.
Voilà, donc il est temps des pronostics. Et donc c'est France-Suisse ce soir. On va commencer, une fois n'est pas coutume, par la VAR. France-Suisse.
Ah, je ne m'y attendais pas, dis donc. Non, je m'attends à un match un peu chiant, donc pourquoi pas un petit 1-0 pour la France, parce que j'ai quand même envie que la France gagne. Ou alors un 0-0 après prolongation, un truc bien, bien dégueu.
D'accord, super, on va passer une bonne soirée.
J'essaie d'être un peu plus optimiste en disant 2-1 pour les Bleus.
Et Julien?
Eh bien, maintenant, moi, j'ai envie de miser sur une victoire de la Suisse 1-0 en prolongation.
Oh, c'est l'anti-France. L'anti-France parle encore. Ouais. Et moi, je vais vous prendre à contre-pied. De toute façon, j'ai tous les résultats bons depuis les débuts de l'Euro, puisque j'avais pronostiqué une victoire des Pays-Bas.
Ceci
hier.
Est faux.
Voilà. Une victoire des Portugais. Donc, ça aussi, bien c'est joué. Faux.
Vous aviez vu le.
Et j'ai vu le Pays de Galles aussi gagner. Donc, je vais vous dire 4-1. Pour la France,
oh là là.
Avec un doublé de Kylian Mbappé. Voilà. Parce que le plus dur, ce sera le premier but. Et après, le robinet sera ouvert, comme dit Antoine Griezmann. Voilà. 4-1. Grosse cote. Hein.
Joker.
Je vous rappelle qu'on avait fait un très très bon match contre la Suisse en Coupe du Monde 2014. On avait passé 4 ou 5. Hein.
On avait passé 5.
Voilà.
On avait fait 5 avec une mi-temps, une première mi-temps incroyable.
Giroud aurait dû être expulsé. Il me semble qu'il avait mis un coup de coude, non?
Ah, je voyais ça. Mais justement, c'était un jour où le duo Giroud-Benzema avait marché du tonnerre.
Donc voilà, donc ça va faire mal. En tout cas, on débriefera ce match demain, voilà, avec la même équipe. Non, je crois que Julien, tu ne seras pas là parce que tu as besoin de te remettre.
Je suis sur le banc de touche. De
pause fraîcheur parce que nous ne te voulons plus maintenant dans les débriefs pour critiquer le dieu Didier Deschamps.
Qui me remplacera demain?
C'est Olivier Perrault.
Ouh là là.
Alors on sort l'arme lourde.
Ouh là 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 là.
Si ça se passe mal, ça va vraiment mal se passer.
En tout cas, merci de nous avoir suivis, puis on se retrouve donc demain. Bonne journée.
Bonne journée.
Le point.